I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous faisions beaucoup plus attention à notre sommeil? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de sport, de course à pied, de trail, de running sous toutes ses formes, mais de sport aussi sous toutes ses formes, et aussi de mode de vie sportif. Et aujourd'hui, on va partir vraiment sur le mode de vie, parce que le sommeil fait partie du mode de vie, et c'est vraiment un élément important, le sommeil et la récupération. J'en ai déjà parlé par le passé, parce que c'est un sujet que je connais un peu trop bien pour avoir souvent négligé cet aspect-là du sommeil, et pour vraiment travailler dessus. D'ailleurs, j'ai revu... Vous savez, pour la saison 3 du podcast, la couverture et le titre du podcast, donc qui s'appelle toujours Kilomètre 42, maintenant il y a une belle couverture jaune, et derrière il y a des mots, et notamment il y a le mot dormir, et quand vous regardez le titre du podcast, j'ai intégré dormir, courir, manger, dormir, c'est vraiment nos règles importantes, c'est vraiment des choses sur lesquelles nous devons veiller, et pourtant nous ne faisons pas assez attention, et je voudrais vous parler un peu plus de ça dans cet épisode-là, qui serait une sorte de rebond d'un épisode que j'avais fait sur l'entraînement invisible il y a maintenant peut-être plus d'un an, je sais pas, je vous mettrai le lien dans un autre épisode pour que vous puissiez le retrouver si vous l'avez raté. Mais d'abord, je voudrais vous faire mes traditionnels merci, et alors un très 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 grand merci à Christophe. Alors vraiment, là, merci vraiment, parce qu'il m'a mis un commentaire sur Apple Podcast 5 étoiles, et attention, tenez-vous bien, le meilleur podcast running francophone. Là, Christophe, vraiment, tu me fais un plaisir quand j'ai montré ça à ma femme. On avait un sourire, une banane, mais vous pouvez même pas imaginer. Il me dit, merci Bertrand pour la qualité de ton contenu. On est loin des podcasts élitistes sur le sujet. Le débutant comme le coureur avancé y trouve des infos adaptées à leur pratique. Les sujets sont agréablement traités et le propos est à la portée du plus grand nombre. Et il me dit hamster avec un petit clin d'œil. Et alors, vraiment, merci. Oui, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je leur dis, parce que ce genre de commentaires, vous voyez, tout d'un coup, ça rassure énormément, parce que des fois, on se dira, on peut dire des conneries, on peut dire, attention, peut-être que j'aurais peut-être pas dû redire ça, ou peut-être que je l'ai mal dit, ou peut-être que je me suis pas assez expliqué, ou alors peut-être que c'était pas assez accessible de la manière dont je l'ai dit, ou alors j'étais un peu trop paternaliste sur certains conseils par voix, ou alors un petit peu trop prudent, ou alors, vous voyez, pas assez avancé dans certaines choses. Et vraiment, là, merci, merci Christophe, et je remercie mais vraiment, je le dis en même temps, tous ceux qui partagent dans les stories, KM42 Podcast sur Instagram, sur Twitter, où vous mentionnez Bertrand Soulier, je repartage ça aussi, vous le savez. Je remercie aussi les patrons qui financent ma vie sportive. Vous savez que vous pouvez aller sur Patreon, je vous mets le lien dans les notes d'épisode aussi, pour soutenir le podcast. Vous pouvez donner à partir d'un euro par épisode, vous enlevez la pub, comme ça vous avez plus la pub, et puis vous avez mon journal d'entraînement tous les lundis. Tous les lundis, je vous explique un peu plus en détail ce que je fais, sur quoi je travaille, comment je construis un petit peu les choses, je vous donne des avant-premières, je vous mets aussi des épisodes avec les invités, souvent en avance. Et je voudrais remercier au passage les derniers patrons qui ont rejoint l'aventure il y a pas très longtemps. Merci Loïc, merci Stéphane et merci Laurie pour votre soutien, c'est un véritable encouragement. C'est comme les encouragements sur le bord de la route, c'est ce que je dis sur les courses virtuelles. Moi, les courses virtuelles m'intéressent pas beaucoup parce qu'il y a pas d'encouragement sur le bord de la route. Et vos commentaires, vos stories, vos partages, l'argent que vous donnez aussi par ce biais-là, c'est des commentaires sur le bord de la route, c'est la petite médaille, ce sont les petits dossards qu'on peut accrocher. Voilà, c'est ça, ça fait mon petit plaisir. Et vraiment, quand on voit ces commentaires arriver, parce que je les partage avec ma femme, etc., je dis waouh, je dis vraiment là, ça fait chaud au cœur, et vous voyez, ça donne du baume au cœur, et c'est ce qui donne encore plus d'élan pour s'entraîner. Mais par moment, il faut aussi savoir se reposer, parce que c'est un constat qu'on doit faire souvent. Moi, en tout cas, je l'ai fait pendant très longtemps. J'oubliais de dormir. J'oubliais de dormir. Si on pense à bouger, à manger, on oublie de dormir. Alors, je vais reprendre la petite phrase du Major Mouvement sur ça, qui pour lui, la base de l'hygiène de vie, c'est bouger, manger, dormir, rire et recommencer. On pense à bouger, on pense à manger, on pense aussi souvent à rire, à se distraire, mais on oublie de dormir. Et vraiment, je dis je suis très bien placé pour le savoir, parce que pendant des années, j'ai vraiment négligé mon sommeil. Guronzan fut longtemps mon ami, et notamment dès l'université où j'ai fait toutes mes études avec du Guronzan en sortant 5 à 6 soirs par semaine. Oui, même les soirs où je pensais que les boîtes de nuit étaient fermées, elles étaient bien ouvertes pourtant, hein, j'avais découvert ça quand je suis devenu étudiant. Et vraiment, pendant des années après, avec le travail, etc., j'ai complètement négligé mon sommeil, et jusqu'au moment où finalement, je suis devenu le fameux hamster dépressif, complètement obèse, gros, etc., c'était aussi lié à mon sommeil. C'était fait du fait que j'avais toujours quelque chose d'autre à faire plutôt que dormir. Vraiment, passer du temps dans le lit était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait vraiment pas du tout. J'avais toujours quelque chose d'autre à faire, d'écrire du contenu, travailler sur des choses, etc., sortir à une époque aussi, regarder la télé, regarder des séries et autres, mais jamais dormir. Voilà, c'est un truc que je n'arrivais pas à faire. J'étais capable de prolonger la télé, de regarder la télé tard le soir, et même aller jusqu'à ces fameuses chasse et pêche et compagnie là qui pouvaient passer très tard, plutôt que d'aller dormir. Et en fait, il y a un constat, c'est que c'est dur d'aller dormir. C'est dur de dire que vous allez vous coucher à 22h, on vous dit tu te couches comme les poules. Et oui, parce qu'en fait, la société valorise l'activité, la suractivité. Et en fait, ne rien faire serait totalement has-been. Et puis c'est vrai, après tout, on a la télé, on a internet, on a l'électricité. Pourquoi se coucher comme le soleil, hein? Pourquoi donc? C'est idiot ce truc-là. On peut prolonger la nuit, on peut prolonger, enfin, la durée de nos journées très longtemps, et finalement se moquer du cycle des jours, des nuits, etc. Ne pas faire confiance à notre corps qui, par moment, bâille, qui, par moment aussi, on pique du nez et nous dit, écoute, ça serait peut-être le moment d'aller te coucher. Non, ça, on le néglige. Et en fait, déjà, je vais vous dire un truc. C'est que vous avez le droit de vous coucher à 22h si vous en ressentez le besoin. Vous avez le droit de vous coucher plus tard, vous avez le droit de vous coucher très tard si vous le voulez. Mais si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de dormir, eh bien vous avez le droit de vous coucher à 22h. Même si, comme moi, on me dit, tu te couches comme les poules, etc. C'est pas possible, comment ça se fait que tu te couches à 22h? T'as pas vu ce truc-là, tu peux pas voir ce truc-là, etc. Non. Si vous avez envie de vous coucher à 22h ou même avant, vous avez le droit de le faire. Tout comme vous avez le droit de faire la sieste, si vous le pouvez. Moi, je peux la faire tous les jours. C'est l'avantage de travailler à la maison. Et avec le confinement, peut-être vous avez plus le temps de faire la sieste, ou en tout cas plus le droit, ou en tout cas vous n'avez pas un patron ou vos collègues qui vous regardent si vous vous endormez quelques minutes sur votre bureau. Mais avouez, hein, il n'y a pas que le dimanche que vous avez envie de faire la sieste. Combien de fois dans la semaine vous avez envie de piquer un petit peu du nez après le repas? Alors ça s'explique, hein, ce qu'on appelle la fatigue postprandiale. Souvent un repas un petit peu lourd égale fatigue derrière. Le début d'après-midi, il est quand même un petit peu difficile. Ça serait tellement bien si on a le droit de faire la sieste. Ça serait tellement bien si tout le monde a le droit de faire la sieste. Si on avait même dans nos bureaux un petit truc comme ça, un petit coussin qui soit là, juste là, on se pose de quelques minutes dessus et on fait une petite sieste, ça nous répare. Et le sommeil est vraiment sous-valorisé, hein, sous-estimé, et que pourtant, on devrait écouter quand même les sportifs qui nous disent, qui nous rappellent à quel point ils ont besoin de dormir. LeBron James, Roger Federer, Usain Bolt ont souvent parlé de leur besoin de sommeil. Alors certains disent avoir besoin de 8 heures, 10 heures ou même 12 heures. La légende dit qu'Usain Bolt s'est réveillé une demi-heure avant d'aller courir la finale du 100 mètres olympique ou je ne sais pas quel champion du monde, ou battre son record du monde, qui dormait, qui venait une grosse sieste juste avant. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas ça fait partie des légendes comme ça du sport. Mais Roger Federer dit très clairement, hein, Roger Federer fait partie des gens qui vous disent qui a toujours plus ou moins le sourire, etc., mais qu'il est quand même plus grincheux quand il dort pas assez, voilà, et que avec l'âge ça s'améliore pas. Bon, et puis on peut lui faire confiance parce qu'en termes de longévité, il fait partie vraiment des sportifs qui ont une longévité incroyable. Et j'ai souvenir dans ma jeunesse, quand je travaillais bénévolement pour un club de foot, hein, Clermont Foot, je m'occupais de la communication en ligne. Un jour, après avoir vu un match, le lendemain les joueurs faisaient des décrassages, etc., et celui qui courait le plus était le plus ancien. Et j'avais demandé à l'époque au préparateur, pas trop au préparateur physique, mais l'intendant, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tous les petits jeunes ils courent pas et que lui il court? Il dit, lui c'est celui qui a l'hygiène de vie, la meilleure hygiène de vie. Et en discutant avec les joueurs, un joueur m'avait dit, on l'avait eu en interview un jour, il a dit, oui, le sommeil fait partie de mon travail, faire une sieste fait partie de mon travail, bien dormir fait partie de mon travail. D'autres nous a dit, bien manger fait partie de mon travail, mais un m'avait dit, oui, je suis payé pour faire la sieste l'après-midi, oui, je suis payé pour me coucher tôt le soir, et quand on le fait pas, ça se ressent tout de suite sur les performances. Alors bien sûr, tout ça semble impossible pour nous, dormir 8 heures, 10 heures ou 12 heures. On va dire 12 heures, dormir 12 heures dans sa journée, c'est quand même la moitié du temps passé au lit à dormir, etc. ça semble impossible pour nous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que oui, on va vous regarder bizarrement quand vous dites que vous allez vous coucher tôt, vous coucher à 22h. Il y a plein d'éléments qui jouent là-dedans, bien sûr, quand on est ado, on veut pas aller se coucher, nos parents nous disent d'aller nous coucher tôt, etc. On défie tout ça, hein, on veut vraiment défier tout ça, et puis bien sûr, à l'adolescence, il y a aussi que on peut avoir peur de s'endormir parfois, hein, ça fait partie aussi des craintes qu'on peut avoir, mais en grandissant, on devrait pouvoir se raisonner. Et pourtant, c'est compliqué, bah oui, parce que la société est ainsi faite. Si vous voulez regarder un film à la télé, il commence pas avant 21h15 maintenant, vous rajoutez la pub, etc. et hop, vous vous retrouvez comme ça très tard. Si vous voulez regarder un match de foot à la télé le dimanche soir, il commence aussi à 21h. Si vous voulez regarder bah, des séries et que vous commencez à binge-watcher vos séries sur Netflix, ça s'arrête jamais. Si vous mettez sur YouTube, il vous met toujours une nouvelle vidéo les unes derrière les autres, et les algorithmes sont tellement bien faits que finalement, eh ben, vous avez toujours envie de regarder la vidéo suivante. Alors que pourtant, hein, le repos et le sommeil font partie d'une bonne hygiène sportive, mais d'une bonne hygiène de vie, tout simplement. Au même titre que s'entraîner régulièrement, que bien manger, que rire, hein, pour reprendre l'expression de Major Mouvement, ça fait partie, vraiment, ça fait partie d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne hygiène sportive. À quoi sert le sommeil, finalement? Parce qu'à quoi ça sert, ce sommeil-là? C'est un élément qui est important, c'est que d'une part, ça régénère le corps. Le corps évacue les déchets accumulés pendant l'entraînement, même pendant la journée, on va dire, hein, pendant le fonctionnement du corps, génère des déchets, et donc le corps va réparer les lésions musculaires, articulaires, tendineuses. C'est le moment de la fameuse adaptation. Bah oui, le principe de l'entraînement, c'est que vous vous entraînez pour demander plus à votre corps a eu du mal à faire certains efforts, et il se dit, bah maintenant, je dois m'adapter à l'effort qu'on m'a demandé, donc je vais me reconstruire plus fort pour être capable de supporter l'effort qu'on va me demander la prochaine fois. Et ben, il le fait pendant la phase de repos, il le fait pendant que vous reposez, pendant que vous dormez. Et donc c'est à ce moment-là, finalement, que votre entraînement devient profitable. Parce que si votre corps est sollicité, si vous le sollicitez, en fait, ça crée du stress, mais s'il n'a jamais le temps de s'adapter à ce stress, ben c'est là que ça pète, hein, le fameux stress mécanique, la quantification du stress mécanique dont vous avez sûrement entendu déjà parler, dont j'avais parlé, vous rappelez-vous, à une époque, bah, au tout début du podcast, quand j'ai fait ma périostite, cette difficulté du corps à s'adapter, le surentraînement, toutes ces notions-là viennent aussi du manque de sommeil et du manque de repos. Le manque de sommeil, c'est aussi quoi? C'est une baisse de sécrétion des hormones anabolisantes qui sont pourtant essentielles pour acquérir, améliorer la construction musculaire, vraiment comment le muscle se construit et comment il va fonctionner. C'est aussi un sentiment de fatigue qui va se ressentir sur l'humeur, l'envie, nos réserves d'énergie. L'organisme va puiser directement dans les stocks de glycogène, qui est en fait une forme d'énergie qui est la plus disponible lorsque leurs réserves sont épuisées, le cerveau détecte et commande l'arrêt de l'activité intense. Oui, je leur dis bien, hein, quand vous n'avez plus ces stocks d'énergie, de réserves de glycogène, etc., eh ben, il y a un moment donné, le cerveau, il détecte ça, et il va dire, bon bah, hop, on va se mettre au repos, et donc vous n'allez pas pouvoir faire les efforts tels que vous voulez les faire. D'ailleurs, on constate une baisse des performances. Selon des observations, un déficit de sommeil conduit à une baisse de 10% de l'intensité dans l'exercice. Et l'impact est très fort sur l'endurance, car plus la durée d'effort s'allonge, et plus l'impact, la baisse d'intensité est importante. Et ce déficit de sommeil, c'est quoi? C'est dormir 1 à 2 heures de moins, mais même 1 heure de moins pendant 2-3 jours d'affilée. Vous pouvez déjà être en déficit de sommeil, et donc avoir des performances qui diminuent. Et puis, il faut le dire aussi, c'est que la fatigue générée par le manque de sommeil a un impact très 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 important sur les blessures et sur les infections. Et là, on parle de la fameuse immunité, très importante par rapport au virus, hein, qui circule en ce moment, mais qui circule tout le temps. Comment votre corps est capable de se défendre contre les virus, contre les agressions? C'est notamment avec du repos. Il a été estimé, par exemple, que le risque de maladie est multiplié par 3 pour des nuits de moins de 7 heures et par 4,5 pour des nuits de moins de 5 heures. Et quant à la blessure, il est estimé que le risque de blessure augmente de plus de 50% pour les nuits de moins de 8 heures. Ah oui, attention, vous vous rendez compte? Le risque de blessure augmente de plus de 50% pour des nuits de moins de 8 heures. Quand vous regardez votre sommeil, quand je regarde mon sommeil, je sais que je suis très souvent en dessous des moins de 8 heures. Et donc, quand même, c'est là où on se pose la question de se dire, eh ben finalement, pourquoi passer autant de temps à s'entraîner? Pourquoi faire attention autant à nos repas, à nos étirements, à faire attention à plein de choses, si à côté de ça, on ne fait pas attention au sommeil, tout simplement, si on ne fait pas attention à cet élément-là, si important que ça, et pourtant que l'on néglige. Car le manque de sommeil déstabilise à la fois la préparation sportive et notre vie quotidienne, et mieux dormir est capital, mais c'est aussi vraiment un véritable défi, et on va voir dans la suite de cet épisode comment s'y prendre justement pour essayer d'améliorer un petit peu cet élément-là. Avant de commencer à aller plonger directement dans toutes les astuces pour dormir, pour mieux dormir, pour favoriser le sommeil, il serait d'abord bon de jauger notre état de fatigue. L'épisode que j'ai fait sur ma pause annuelle, ma pause d'automne, a fait beaucoup réagir. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit « Oui, effectivement, ça peut faire réagir. Non, moi j'aime bien courir à ce moment-là. Non, moi je me sens pas fatigué, c'est le meilleur moment, etc. » En fait, c'est chacun est très a une vision très personnelle là-dessus. Et c'est normal, parce que en fait, notre fatigue nous est personnelle. Et contrairement à une voiture, notre voiture, il y a un voyant qui dit « Attention, il n'y a plus de batterie ». Et ben dans notre corps, on n'a pas de voyant. On n'a pas un voyant qui s'allume pour nous dire « Attention, la batterie est vide, elle se recharge pas assez, etc. L'alternateur ne fonctionne pas, il faut la recharger ». Non, ça n'existe pas dans notre corps. Donc, c'est à nous de capter le signal. Et alors, j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « La Bible du triathlon » de Joe Frill, quelque chose qui... Alors, Joe Frill, c'est un entraîneur depuis des années, qui a fait... Alors, c'est la Bible du triathlon, c'est un gros pavé quand même. Et donc, il propose quelques facteurs à surveiller. C'est ce qu'il appelle les signaux du matin. L'idée, c'est de choisir certains signaux, de les observer chaque matin à son réveil. Un signal en lui-même n'est pas vraiment alarmant, mais le cumul de plusieurs signaux pendant plusieurs jours devrait très clairement nous alerter. Alors, quelques signaux que lui incite à regarder. D'abord, le sommeil. Est-ce qu'on a une mauvaise qualité ou une durée qui est inappropriée, vraiment surveiller ça. Le sentiment général aussi, la fatigue, le stress. Est-ce qu'on se sent stressé, fatigué. L'humeur. Est-ce qu'on se sent anormalement grincheux. Est-ce qu'on est plus grincheux que d'habitude. Est-ce qu'on perd un peu le sourire. Est-ce qu'on s'énerve. Est-ce qu'on est irritable. L'appétit. Est-ce qu'on a moins d'appétit. Oui, peut être un élément aussi qui peut montrer qu'on est fatigué, qu'il faut faire attention à ça. La motivation pour l'entraînement est plus faible. Je vous en avais parlé sur ma fameuse pause annuelle. Les muscles, les articulations qui deviennent plus douloureux, qui sont ça coince plus que d'autres. Oui, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit avec le docteur Denis Boucher sur les courbatures, quand même, à un moment donné, c'est pas normal d'avoir toujours des courbatures. En avoir, oui, c'est normal, parce que notre corps, à un moment donné, on lui demande de faire des choses, mais avoir toujours, viser toujours trop de courbatures, et y compris avoir des douleurs le matin, etc., c'est pas non plus un élément qui montre forcément de la très bonne santé, ou en tout cas, ça montre qu'on peut aller vers l'épuisement de notre corps. Deux facteurs ensuite, qui demandent de vérifier qui sont plus au plan de la fréquence cardiaque, et qui sont un peu plus compliqués à manipuler, moi je trouve en tout cas, parce qu'il faudrait avoir creusé un petit peu plus, c'est le différentiel accru entre les fréquences cardiaques allongées et debout, et une faible variabilité de la fréquence cardiaque. Là, on rentre dans des éléments qui sont plus techniques, parce qu'il faudrait regarder un petit peu plus ce que l'on fait. Bon, si vous avez une montre cardio qui suit en permanence ce que vous faites, peut-être qu'elle va vous montrer que votre fréquence cardiaque au repos est peut-être plus élevée que d'habitude, ça peut être un élément. Vous pouvez vous rendre compte aussi que peut-être vous arrivez à aller moins haut dans l'intensité de l'effort, parce que, tout simplement, votre fatigue est là et que votre corps, votre cœur n'arrive pas à pomper autant qu'il devrait. Et donc, ça peut être des éléments à surveiller. En tout cas, Geoffrey rappelle dans son livre que le triathlète confirmé doit placer la récupération au cœur de sa préparation. Disons qu'il doit équilibrer sa préparation avec une très bonne récupération et que la récupération doit devenir une seconde nature. Ça, c'est très intéressant. La récupération doit devenir une seconde nature. L'hygiène de vie demande une vraie discipline, mais il faut vraiment faire attention à sa récupération et vraiment la placer dans la récupération, placer cette récupération au cœur de son attention. Et il donne un adage. Il dit, ne reste pas debout si tu peux t'appuyer sur quelque chose, ne t'appuie pas sur quelque chose si tu peux t'asseoir, ne t'assieds pas si tu peux t'allonger. C'est l'adage qu'il donne pour les entraînements de triathlètes. Il leur dit, je le répète, ne reste pas debout si tu peux t'appuyer sur quelque chose, ne t'appuie pas sur quelque chose si tu peux t'asseoir, ne t'assieds pas si tu peux t'allonger. Bon, à ce stade, maintenant, vous pouvez être un peu plus convaincu qu'il va falloir surveiller ce sommeil, ce repos, là, faire un peu plus attention. Mais comment faire? En fait, déjà, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a de nombreux facteurs qui jouent, et par exemple, le stress de la journée, le stress du travail, le stress de la vie quotidienne, de la famille, des enfants, du travail, des factures à payer, tout un tas de choses comme ça, des virus, du confinement, du reconfinement, de savoir si on peut aller travailler, du transport, etc. Le masque, tous ces éléments-là vont jouer sur le stress. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même vie. Et c'est sûr que on peut pas se dire je peux avoir le même heure de sommeil que LeBron James donc c'est le métier ou de Roger Federer donc c'est le métier, mais on peut faire attention quand même à certains facteurs parce que c'est important, mais ça demande une démarche qui soit vraiment active et qui attention, c'est que ça bouscule les habitudes de vie. C'est pas si simple que ça parce que ça bouscule tout ce qui est habitude, routine, nos petits trucs, nos petites choses qu'on met en place comme ça, même sans s'en rendre compte. On a l'impression que ça nous fait du bien et de les bouger, de changer ces habitudes-là, c'est pas si simple que ça. En fait, changer une habitude, c'est pas simple parce que ça demande un effort important qui est de dire je remplace telle habitude par une autre habitude, et notre cerveau, il aime pas les changements, il aime pas ça, donc ça demande une certaine... C'est plus que de la motivation en fait, c'est vraiment une détermination au départ, de la motivation, et puis vraiment de prendre une discipline qui va installer une nouvelle discipline dans notre vie. Et attention, hein, cette discipline-là, elle est pas si simple que ça, elle peut se détruire assez rapidement, parce que c'est très rapide de partir dans le mauvais sens. Et puis il faut aussi, il faut le dire, hein, je le redirai un peu plus tard, mais avoir une certaine souplesse. Hein. Faut pas non plus être un maniaque de ça, parce que sinon vous allez créer un nouveau stress, et c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on cherche. Mais avant de parler de la routine du sommeil, qu'est-ce qui nous empêche de dormir? Qu'est-ce qui vraiment sont les freins au sommeil? D'abord notre mental, notre disposition d'esprit, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, j'ai parlé du stress, de ce qui nous ronge un petit peu, des pensées qui nous font ruminer, mais je reviens aussi sur cette idée que pour certaines personnes, dormir est un luxe, et que la société a aussi placé le sommeil comme étant un luxe. Vous pouvez regarder un petit peu les séries, les films, vous pouvez regarder un petit peu la littérature, vous pouvez aussi regarder les exploits, par exemple, on vous dit oui, ils n'ont pas dormi pendant tant de temps, etc. Mais il faut se rappeler quand même que, bon, un navigateur qui fait le Vendée Globe Challenge, il s'est entraîné à pas dormir, à faire du soleil polyphasique, etc. Et il vit pas tout le temps comme ça, il vit pas tout le temps en dormant un quart d'heure, 5 minutes de temps en temps. Et non, il y a des moments où vraiment, il doit dormir, dans l'année, il y a des moments où il va faire des grands cycles de sommeil, vraiment dormir très classiquement, et il va s'entraîner à dormir moins sur des périodes de compétition. C'est comme les coureurs, si vous allez faire un ultra, bah vous allez vous entraîner à courir en dormant moins pendant un ou deux jours ou trois jours, mais vous n'allez pas passer toute votre vie à dormir comme ça. Donc c'est pas un luxe de dormir, c'est pas un luxe de se reposer. C'est tant pis si on va louper telle émission à la télévision. Bon attendez, on a tous le replay quoi. On n'est plus dans l'époque où il fallait absolument regarder en direct. Alors bien sûr, un match de foot ça se regarde en direct, bien sûr qu'il y a des événements sportifs qui se regardent en direct. J'ai une petite pensée pour Red One, rappelez-vous que j'avais reçu dans un épisode de podcast, qui a regardé les finales NBA pendant la nuit. Bien sûr, quand on est passionné de ça, mais on le fait pas toute l'année. Il y a des moments où on va le faire certains moments, certains jours, certaines périodes, et puis vraiment sur l'ensemble de l'année, et ben on va se dire, on va essayer de se discipliner un petit peu, et c'est d'abord une disposition d'esprit. Mais notre mental, c'est vrai, on a des habitudes, on a la société au global, hein, nous empêche parfois d'aller nous coucher, ou en tout cas on est un peu mal vu si on dit bah oui je vais me coucher à 22h ou même 21h30. Si vous avez besoin de dormir à 21h30, c'est probablement un signal important de votre corps qui vous dit attention, moi j'ai besoin de dormir. Si vous piquez du nez à 21h30, c'est que votre corps il a besoin de dormir. Un autre élément qui va gêner, et celui-ci il est très connu, c'est tout ce qui est lumière bleue. Écran de tablette, ordinateur, télévision, ça perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui gère notre horloge biologique. D'ailleurs, vous trouvez dans le commerce de la mélatonine, hein, vous pouvez prendre des cachets de mélatonine. J'avais entendu des gens qui prenaient de la mélatonine pour mieux dormir, mais qui passaient leur vie sur des écrans. Bon, la première chose à faire, probablement, c'est de se dire, on va d'abord se dire, est-ce que je peux enlever les écrans, et puis éviter la mélatonine. Mais, dans le livre, là, justement, de Joe Frill sur la Bible du triathlon, il rappelle aussi que certains athlètes de triathlon prennent de la mélatonine justement pour mieux dormir. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que l'intensité de l'entraînement peut les empêcher de dormir. Et là, c'est un élément qui est important, c'est que les séances de sport intenses le soir peuvent vous empêcher de dormir parce qu'elles provoquent une augmentation du rythme cardiaque, de la température du corps, de la tension. Autrement dit, votre corps, il est éveillé après une séance de sport. Et ça, c'est pas idéal pour préparer au sommeil. Si vous faites vraiment des séances de sport tard le soir et très intense, vous pouvez avoir du mal à dormir. Moi, c'est un constat que je fais avec mes entraînements de club, hein, qui se terminent, alors en ce moment, il n'y en a pas, mais mes entraînements du club, c'est 18h30, 20h. J'ai des fois 20h15, le temps de rentrer à la maison. J'ai du mal à dormir, j'ai du mal à me coucher tôt ces jours-là. Déjà, j'ai du mal à manger tout de suite parce que l'effort intense a une tendance à couper l'appétit. Il faut attendre déjà 3/4 d'heure, 1 heure pour que l'appétit réel revienne. Et je vais en parler, mais c'est un autre élément qui est important, c'est que si le repas aussi peut gêner le sommeil. Donc déjà, ça décale un petit peu le repas, et puis ça décale aussi finalement le moment où le corps va rentrer dans cette phase d'endormissement, hein, tout simplement. Si on arrête de s'entraîner, qu'on a fait de l'intensité jusqu'à 21h, c'est sûr qu'à 21h30, on n'est pas disposé à dormir, c'est pas possible. Donc faudrait plutôt privilégier des entraînements fractionnés de vitesse sur le matin, le midi, quand c'est possible, et c'est là je dis que ça bouge beaucoup les habitudes. Et si c'est pas possible, et ben de se dire, est-ce qu'on peut les avancer dans la soirée, mais qu'elles soient calées 2 à 3 heures avant d'aller au lit. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire de l'intensité importante avant 19h et pas entre 19h et 21h ou après 21h. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire si on veut aller faire du sport, si c'est le moment qu'on va qu'on a pour faire du sport, c'est plutôt faire des footings longs, de l'endurance en mental. En tout cas, on va essayer, hein, on va essayer, attention, c'est ce que je dis, on devrait essayer d'avoir des activités qui sont moins intenses au niveau du sport. Et puis, je l'ai dit, hein, il y a un autre élément qui est important, c'est l'alimentation. On sait que l'alimentation joue énormément sur notre qualité de sommeil, sur notre endormissement. Si elle est trop riche le soir, eh ben elle prolonge l'activité digestive et complique l'endormissement. Alors attention là-dessus aussi, parce qu'il y a un petit peu de tout. Par exemple, une étude de l'université de Dakota du Nord a montré que des sujets qui avaient pris un repas riche en protéines, et ce qui après le sport est bon, hein, de prendre des protéines pour reconstruire le muscle, avaient un meilleur sommeil que ceux qui avaient pris un repas riche en glucides. Riche en glucides quand même, attention, c'est qu'on sait que certains aliments à index glycémique élevé, et là on va tomber sur des choses comme les pâtes, le riz, les pommes de terre, vont favoriser l'endormissement. Donc il y a de tout. On prend de tout, on peut écouter de tout, et là-dedans, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'est pas facile de s'y retrouver, nous ne sommes pas tous égaux, il y a des choses qui fonctionnent bien pour les uns et pour les autres, il y a des choses qui, pour moi, vont fonctionner, qui vont pas du tout fonctionner pour vous. C'est pour ça que je vais pas vous dire de régime alimentaire particulier, c'est pour ça que je ne veux pas vous dire faut manger tel ou tel aliment pour vraiment dormir à coup sûr, parce que ce n'est pas le cas. Chacun fonctionne différemment, c'est important de se connaître, et il faut observer chez vous ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Reprenez la bonne idée du docteur Denis Boucher, on en avait parlé dans cet épisode-là, de tenir un journal alimentaire. Ajoutez dedans comment vous dormez en fonction de vos repas et aussi de votre activité physique. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un petit journal, alors moi je le fais sur mon ordinateur, mais vous pourriez le faire sur un cahier ou quoi que ce soit, de dire à quelle heure je me couche, à quelle heure je dors, quelle est la qualité de mon sommeil, qu'est-ce que j'ai mangé avant, quand est-ce que je me suis entraîné, quel type d'entraînement j'ai fait, et peut-être hein, de regarder s'il y a une corrélation. Si vous vous rendez compte que systématiquement, après tel ou tel type de repas, ben vous dormez mieux ou vous dormez moins bien, c'est qu'un signe. Si vous rendez compte que après chaque soir vous êtes entraîné tard, et ben tel type d'entraînement vous dormez pas bien, c'est peut-être que là il faudrait peut-être arriver à regarder si vous pouvez modifier votre entraînement. Quitte peut-être à faire des sorties, j'ai envie de dire type sortie longue endurance mentale en semaine et faire des sorties d'intensité le week-end plutôt que de dire, parce que généralement on fait une sortie longue le dimanche, on va dire, bon en ce moment on est limité à une heure et dans le périmètre d'un kilomètre, mais généralement on fait une sortie longue le dimanche parce que c'est là où on a le plus de temps ou quoi que ce soit, mais peut-être que si on y arrive à modifier un petit peu son emploi du temps, il faudrait faire la sortie, j'ai envie de dire longue, un peu plus dans la semaine et l'intensité forte le dimanche matin, c'est-à-dire inverser un peu notre programme. Pourquoi pas? Ce n'est pas impossible que par rapport à notre sommeil, ce soit un élément important. En tout cas, ce que je vais vous dire là-dedans, c'est que ça nous amène dans une démarche qui est de placer le sommeil et de placer le repos vraiment comme un élément qui est au cœur de notre quotidien, de notre hygiène de vie, et que ça va plus loin que simplement quelques astuces, quelques béquilles qui seraient de dire je vais prendre des cachets de mélatonine, je vais prendre une tisane le soir ou quoi que ce soit, même si je vais vous les mettre dans les conseils potentiels, dans ce qui pourrait marcher, mais qu'il faut avoir une certaine discipline, que se dire que vraiment, si on pense qu'on est fatigué, si on pense qu'on manque de sommeil, si on a l'impression que ça agit en mal sur notre corps, sur notre mental, sur nos performances physiques, sur notre humeur, sur notre hygiène de vie au sens global, il faut placer ce sommeil, il faut le placer au cœur de notre vie. Il faut arrêter d'en faire une variable d'ajustement et commencer à en faire par quelque chose qui est important, qui est au cœur de notre vie et à laquelle on va lui donner toute l'importance qu'on doit lui donner. Et donc, on va bien sûr mettre de la flexibilité. Bien entendu que on va pas prendre tous les conseils que l'on trouve au pied de la lettre. Bien entendu qu'on va pas devenir rigide en se disant « je dois absolument être couché à 22h », mais plutôt viser un objectif de dire « mon objectif, c'est de me coucher à 22h ». Moi, mon objectif, qui est marqué sur mon billet de journal, c'est de dire « à 21h30, j'entame ma routine de coucher pour être au lit à 22h et même dormir à 22h ». Je me réveille à 5h du matin naturellement. Donc, le truc, c'est d'arriver à mettre, vous voyez, ça fait que 7 heures de sommeil. Je suis pas dans les 8 heures, mais je rajoute une petite sieste à l'après-midi, 15 minutes. Vous voyez que je m'en rapproche petit à petit. Et puis, si j'ai besoin de dormir plus, eh ben, il y a des jours où je dors plus. C'est tout. C'est comme ça. Mais, en tout cas, vous n'allez pas non plus vous dire, faut absolument que j'ai une routine parfaite du soir ou quoi que ce soit, parce que ça va vous mettre du stress. Si vous mettez du stress, vous allez partir dans moins de sommeil, hein, ça va devenir plus facile, plus pénible, et puis vous n'avez pas envie de le faire. Non, faut être souple en agissant plutôt vers plus de sommeil que moins de sommeil, comme on a l'habitude de le faire. C'est vraiment d'inverser la logique, c'est de se dire, je vais placer le sommeil dans ce qui est important pour moi, je vais essayer d'avoir plus de sommeil, et ce qui veut dire que, ben oui, je vais devoir faire une croix sur certaines habitudes, certaines autres habitudes, pour arriver à en mettre en place une sorte de routine du soir, certaines bonnes habitudes, pour arriver tout simplement à mettre vraiment un focus sur ce repos et ce sommeil. Alors maintenant, on va arriver dans une partie qui va ressembler plus à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une routine du soir. On parle beaucoup des routines du matin pour se réveiller, le Miracle Morning, vous voyez, tous ces trucs-là. Mais en fait, on doit aussi avoir une routine du soir, parce que la routine du soir, ce sont des habitudes qui nous aident à nous endormir, qui nous aident à trouver le sommeil, à nous mettre dans des conditions de sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Quelles sont les habitudes qu'on va surveiller? Qu'est-ce qu'on va faire? À quoi on va faire attention? Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les routines, dans ces habitudes du soir? Déjà, je l'ai dit, l'entraînement intense après 19h, il faudrait plutôt mettre des séances légères en endurance. Les repas qui soient pas trop gras ni trop copieux le soir, faire attention aux écrans. L'idéal serait de les couper une heure avant d'aller se coucher. Oui, une heure avant d'aller se coucher. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez vous coucher à 22h, à 21h, il faudra avoir coupé les écrans. Faire aussi attention à ce qu'on regarde. Si on va regarder la télé, si on va regarder une série ou quoi que ce soit, il y a peut-être des films à sensation qui peuvent vous empêcher de dormir. Peut-être que vous êtes rendu compte que certains films d'action, certains films policiers ou quoi que ce soit vous empêchent de dormir. Si c'est le cas, vaut peut-être mieux les remplacer par d'autres films, d'autres types de films ou de séries. Ou même, si on veut carrément couper les écrans, préférer la lecture. Moi, je sais aussi d'ailleurs que les types de lecture changent un petit peu. Par exemple, j'ai coupé tout ce qui est lecture professionnelle, les lectures marketing, les lectures sur la communication et tout, qui font partie de mon métier, pour ne lire que des romans. Oui, le soir, je lis des romans ou alors des livres, j'ai envie de dire un peu sur le sport. Vous voyez, type les récits d'aventures sportives, les choses comme ça, les conseils donnés par les uns et les autres. Oui, ça, je vais le garder, vraiment. Mais vous voyez, les trucs qui font trop réfléchir le cerveau, je vais essayer de les éviter le soir. Vraiment, même la lecture peut des fois vous stimuler l'esprit. Par exemple, tout livre qui vous donnerait envie de prendre des notes en permanence est pour moi un livre à bannir, voilà, tout simplement. Autre élément auquel on va faire attention, c'est tout l'aspect hydratation. Oui, c'est important de bien boire. Faites attention quand même à pas trop boire, parce que si déjà vous êtes... Si ça vous conduit à devoir vous lever la nuit, ça coupe votre sommeil et donc c'est pas bon non plus. Donc faudrait éviter de trop boire le soir, faut trouver la bonne dose d'hydratation. L'hydratation, c'est quelque chose qui se fait sur l'ensemble de la journée. Il y a un truc, on sait, c'est éviter l'alcool. Trop d'alcool le soir, c'est pas bon non plus. Ça gâche le sommeil. Il y a eu vraiment des études qu'on a faites là-dessus. Attention aussi à la caféine. Mesurez votre sensibilité à la caféine. On sait que la caféine laisse des traces dans le corps pendant 6 heures après son absorption. Donc, ce qui veut dire que si votre enjeu, c'est de dormir à 22 heures, vous rendez compte que vous êtes sensible à la caféine un certain nombre de temps, on pourrait dire qu'à partir de 15 heures, la caféine, il faudrait déjà l'avoir éliminée, il faudrait éviter la caféine. Moi qui fus un grand buveur de Coca-Cola, qui buvais du Coca-Cola le soir, je me dis avec un certain recul que probablement à l'époque, ça m'empêchait aussi de dormir, ces histoires-là. Ça fait partie, vous voyez, quand on regarde un petit peu son passé, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'était déplorable ce que je faisais !» Mais c'était comme ça, ça sert à rien de me blâmer pour ce que je faisais il y a maintenant 10 ou 15 ans. Je dois juste me féliciter d'avoir changé ça, d'avoir oublié ces mauvaises habitudes pour en avoir pris des bonnes. Et dans les bonnes habitudes, qu'est-ce que j'ai fait ? Le soir, par exemple, je prends pas de thé ou quoi que ce soit, mais j'aime bien une petite infusion. Alors, du tilleul, de la valériane, du passiflore, vous voyez, des choses comme ça. Évitez, il y a des plantes, attention, c'est pas parce que c'est une plante que ça n'a aucun impact, Il y a des plantes, la menthe peut être un excitant. Donc faites attention, il y a des plantes qui excitent et il y a des plantes qui calment. Oui, même si on dit une infusion, la tisane de mamie, on dit oui, ça peut rien faire de mal, etc. Et non, il faut se rappeler que tous les médicaments dont on dispose dans notre arsenal de santé sont basés sur des plantes, sur des composés qui sont dans les plantes. Si on part de ce principe-là, il n'y a aucune plante qui est vraiment anodine. Alors, il y a des plantes qui sont plus ou moins actives que d'autres, il y a des plantes qu'il faut faire infuser plus longtemps, il y a des plantes qui vont donner différentes caractéristiques selon les infusions, mais il y a des plantes, et ça vaut le coup de faire attention aux choses, de se dire, il y a des plantes qui le soir vont m'empêcher de dormir, et il y a des plantes qui vont plutôt m'aider, qui vont plutôt favoriser un bon sommeil. Là aussi, ça fait partie des choses que vous pouvez noter. Il y a aussi une astuce, alors c'est un petit peu l'astuce de grand-mère, vous savez, c'est l'astuce du lait chaud au miel. Ça peut être une astuce. Vous pouvez vous dire, oui, ça paraît être une astuce de grand-mère, mais sachez quand même que il y a un truc, et vous allez en entendre beaucoup parler, c'est le moon milk. Le moon milk, il nous vient de la médecine ayurvédique indienne, et vous savez que, en fait, cette médecine est reconnue par l'OMS, elle est au cœur de la culture, de l'hindouisme, etc. Et elle utilise les propriétés naturelles des plantes et des épices pour donner un remède efficace et puissant afin de détendre l'organisme avant d'aller se coucher. Vraiment, cette boisson, ce moon milk, vraiment. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, il y a certaines... cette boisson-là, avec certaines épices et certaines plantes, vont nous aider à dormir. Alors, il y a plein de recettes de moon milk, soyons honnêtes. La base, c'est du lait, aux préférences du lait végétal. Moi, je trouve, hein, le soir, c'est mieux, mais bon, chacun ses goûts, hein, vraiment, chacun ses goûts. Parce que d'autres diront que le gras du lait classique, eh ben, c'est aussi ce qui aide à dormir. Attention, il n'y en a pas trop, mais ça peut aider. En tout cas, ce qu'on trouve hein, dans les compositions, c'est plutôt du lait ou lait végétal, de l'huile de coco. Je vous dis, il y a un petit peu de gras, c'est du bon gras, l'huile de coco. Faut pas non plus dire, faut pas enlever tous les gras, il y a des bons gras. Du miel, on revient, vous voyez, sur cette notion de miel, du curcuma, des autres épices. Je vous rappelle que le curcuma est un très 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 puissant, anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, c'est bon à la fois par rapport au sport, c'est aussi bon par rapport à l'immunité. Donc ça fait partie des choses un petit peu. Et puis faut regarder aussi les plantes de fenouil grec, vous voyez des choses comme ça qui améliorent l'effet du curcuma. Vous voyez, il y a plein d'éléments comme ça, même si le curcuma, on avait dit de s'en méfier un petit peu à cause du coronavirus. Chacun après un petit peu creuser un petit peu les choses. Moi je sais que j'ai repris du curcuma, j'avais beaucoup arrêté le curcuma et puis j'ai vu certains éléments qui disaient que finalement bon, on pouvait en prendre. Donc j'ai repris le curcuma dans mon petit déjeuner le matin, mais c'est vrai, par exemple, cette boisson, ce fameux Moon Milk, peut faire partie des choses qui peuvent vous faire du bien. Ça fait partie des essais à faire. Ensuite, l'astuce suivante, il y a deux écoles. C'est la douche. Alors, il y a vraiment deux écoles, parce que certains disent que la douche chaude prolongée aide à refroidir le corps, et d'autres estiment que l'eau chaude fait monter la température du corps et va plutôt le mettre dans une situation active. Et puis, vous avez de l'autre côté, Wim Hof et les adeptes du froid qui préconisent une douche froide dans la routine du coucher. Vous trouvez même des personnes qui vont prendre une douche froide à 23h avant d'aller se coucher. Et même, j'ai vu des films ou autres où on voit des adeptes de Wim Hof qui se mettent dans le froid avant de dormir et qui vont dormir juste derrière. J'ai testé les deux. J'ai testé les deux et les deux fonctionnent pour moi. Donc chacun va voir le truc. J'ai testé la douche froide le soir. Oui, derrière, je me suis endormi sans aucun problème. Bon, moi, j'ai tendance à penser, et je reviendrai dessus un jour parce que je voudrais faire un épisode avec un spécialiste du froid, que le froid n'est pas très compatible avec ma physiologie, mon tempérament. C'est-à-dire que moi j'ai un tempérament un peu frileux, et si en plus on rajoute du froid dessus, j'ai une tendance à trouver que ça me fatigue un peu plus. Donc je suis plutôt une adepte du chaud. Ça m'empêche pas de dormir non plus. Mais chacun un petit peu doit aller piocher un petit peu, à vous de voir un petit peu ce qui marche. En tout cas, moi je sais que dans ma routine du coucher, la douche fait partie de ma routine du coucher. Maintenant, vraiment, ça fait vraiment partie. Alors, il y en a certains qui estiment qu'ils ont besoin d'avoir une douche pour se réveiller le matin. Moi, j'ai plutôt besoin d'avoir une douche pour m'aider à m'endormir le soir. Voilà, c'est comme ça. Et les deux fonctionnent pour moi, je le dis, hein, le chaud et le froid ont fonctionné pour moi. C'est juste que moi, j'estime que le froid, je trouve que ça a une tendance à fatiguer un peu plus mon corps, parce que mon corps fonctionne d'une certaine manière, et votre corps à vous fonctionne d'une autre manière. Chacun en a notre corps, et donc on doit tous apprendre, savoir comment fonctionne notre corps. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un truc qui est important, c'est surveiller son cycle de sommeil. Savoir à quel moment on reconnaît les moments propices, à quel moment on commence à piquer du nez. Si vous piquez du nez sur le canapé, bah c'est l'heure, hein, voilà, c'est l'heure. Alors vous allez me dire, oui, c'était que 21h. Bah oui, mais peut-être que c'est l'heure à laquelle il faut entamer la routine de coucher. Parce que vous savez, en fait, ces moments où on commence à piquer du nez, c'est à partir de 21h. Bah oui, c'est à ce moment-là que notre corps il est réglé, hein, sur la nature, sur le sommeil, sur le soleil, sur plein de choses, etc. Peut-être que l'hiver, vous avez besoin de, vous sentez que la fatigue arrive plus tôt le soir, que vous avez besoin de dormir plus tôt le soir. Peut-être que l'été, c'est plus tard. Il faut s'adapter à tout ça. Il faut regarder cet environnement. Mais en tout cas, il faut apprendre à les décrypter. Il faut apprendre. Je vous dis, on n'a pas de lumière qui s'allume, mais ça, c'est un signal qui est important. Et vous savez aussi que quand vous ratez ce train de sommeil à 21h, s'il arrive à 21h ou 21h30, ben, faudra attendre probablement 1h30 pour avoir le suivant. Et donc, si vous passez à 21h30 et que vous attendez et que vous retrouvez à 23h et que le lendemain vous devez vous réveiller tôt, et ben là, vous voyez que vous commencez à manquer de sommeil. Donc, c'est là-dedans qu'il faut vraiment arriver à jauger à quel moment, ben, oui, c'est le moment d'aller dormir. Il faut se dire, c'est le moment d'aller dormir. À ce moment-là, je vais dormir. Sinon, je risque de décaler mon sommeil. Et là, ça sera pas bon. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre dedans, d'autres éléments, des facteurs à surveiller? Déjà, on peut agir sur sa chambre aussi. Ça, c'est un élément qui est important et auquel on devrait faire attention. Alors là, maintenant qu'on est en hiver, qu'on approche de l'hiver, bah, faire attention à la température, au chauffage. On dit qu'on ne devrait pas dépasser les 19 degrés dans une chambre. Une chambre trop chaude, déjà, on dort mal, on a chaud, etc. On a soif, bon, tous les critères. faire. Je redis, hein, si vous êtes obligé de vous lever la nuit pour aller boire un verre d'eau, ou si vous vous réveillez la nuit parce que vous avez besoin de boire ou quoi que ce soit, c'est pas bon non plus. Si vous vous réveillez la nuit en sueur et parce que vous êtes trop chaud, c'est pas bon non plus. Donc c'est vrai que ne pas dépasser les 19 degrés peut être un bon conseil. Voilà, moi j'aime bien, par exemple, on a une grosse couette, et puis bah, si j'ai chaud, je peux l'enlever facilement, alors que baisser le chauffage en pleine nuit s'il fait trop chaud, c'est pas facile non plus. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Évitez aussi tous les bruits, les lumières, parce qu'en fait, ça met notre cerveau à l'écoute. Il va écouter ce qui se passe. Hein. Vous pouvez vous dire, oui, une petite lumière, un petit bruit, c'est pas très gênant, mais en fait, votre cerveau, bah, il se repose pas vraiment pendant ce temps-là. Achetez un réveil. Plutôt que d'avoir votre téléphone, vous dire, bah, mon téléphone, c'est mon réveil, et puis je mets mon téléphone juste à côté de moi, de ma tête, là, à 30 cm de ma tête. On sait pas pour les ondes, hein. Moi je suis pas anti-ondes, etc. L'autre jour on m'a proposé un partenariat pour mettre des patchs sur mon téléphone pour bloquer les ondes. J'ai refusé, hein. Voilà, je vous dis très clairement, donc je suis pas trop dans cette logique-là des ondes, pas des ondes, etc. Donc ne me demandez pas mon avis sur les ondes. En tout cas, moi je sais que je n'y crois pas suffisamment pour mettre un bloqueur d'ondes sur mon téléphone. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que d'avoir un téléphone dans sa chambre, c'est une tentation. C'est une tentation de regarder les réseaux sociaux, d'avoir des notifications ou quoi que ce soit. C'est même une tentation qui pourrait biper, sonner ou vibrer pour je ne sais quelle raison, parce qu'il y a une mise à jour qui se passe dans la nuit, vous recevez un mail ou quoi que ce soit, donc ça peut vous réveiller. Mais c'est vrai qu'avoir un réveil très classique, alors peut-être pas un réveil qui fait tic-tac, parce que moi je sais que ça a une tendance plutôt à m'empêcher de dormir, avoir un réveil qui a pas un écran trop lumineux, parce que j'avais acheté un réveil à une époque, il y avait un écran qui était trop lumineux, c'était vraiment trop pénible, ça m'empêchait de dormir, j'avais fini par mettre sous le lit, et même sous le lit ça faisait une lumière, donc c'est pas forcément facile de trouver un réveil. Je le dis, c'est pas forcément facile. Moi d'ailleurs, mon meilleur réveil, c'est ma montre, hein, ma montre de sport, elle vibre, donc elle vibre à l'heure à laquelle je vais me réveiller, et j'ai trouvé que c'était mon meilleur réveil de tous. Pour l'instant, c'est ça. Pendant très longtemps aussi, je me suis réveillé, j'avais un Fitbit, vous savez, qui vibrait aussi aux heures de réveil. Ma montre WeThings aussi, par exemple, vibrait comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé que ma montre qui vibre, c'est le meilleur réveil de tous, et que j'ai pas besoin d'avoir un réveil à côté de moi ou quoi que ce soit. Mais ça, chacun fait partie, hein, chacun ses habitudes. Un autre truc, tiens, par contre, le meilleur investissement pour mon sommeil, mais vraiment le meilleur investissement pour mon sommeil, pour la réparation de mon corps que j'ai fait, c'est quand on a déménagé, c'est d'avoir acheté un lit IKEA qui fait 2 mètres de long plutôt que notre traditionnel lit de 190. Bah oui, traditionnellement on a des lits de 190 en France. Et bon, quand vous faites 1,83 comme moi, vous rentrez dans le lit, bon oui vous rentrez, mais ça vous plie un petit peu, et puis je le vois l'été quand on part en vacances, on a un lit à la maison de vacances qui est un lit classique de 190, et ben je peux pas tendre les jambes comme je veux, je suis toujours un peu plié, et puis si on a les draps qui sont, vous savez, qui sont mis au bout là, je sais plus comment on appelle ça, mais oui, ça enlève une partie du bout du lit. Et donc d'avoir un lit qui fait 2 mètres, et ben moi tout simplement ça a sauvé mon sommeil. Mais alors vraiment sauvé mon sommeil, c'est-à-dire que tout d'un coup je peux vraiment m'allonger comme je veux, je peux vraiment même étendre les pieds, je peux même faire des étirements dans le lit, etc. Ça, c'est vraiment fait partie, vous voyez, c'est un truc qui a sauvé mon sommeil, qui a amélioré aussi, a enlevé le mal de dos, etc. Ça fait vraiment partie des choses, vous voyez, avoir un lit de 2 mètres IKEA, pour moi, ça fait partie de la meilleure astuce de sommeil que j'ai trouvée au départ quand j'ai commencé à réfléchir à ça. D'autres éléments qui pourraient rentrer dedans, par exemple la méditation, la relaxation, le yoga, doux, attention, parce qu'il y a des yogas qui sont intensifs. Le yoga, par exemple, les salutations du matin, c'est pas très doux le soir. Les salutations au soleil, vous savez, les salutations au soleil, c'est très bon pour le matin, parce que si vous avez fait des burpees et si vous faites des salutations au soleil, vous vous rendez compte que c'est le même mouvement. C'est juste que quand vous faites des burpees, vous les faites en mode rapide. Quand vous les faites en yoga, vous les faites en mode plus doux. Mais en fait, c'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire que c'est fait pour faire circuler le sang dans le corps, etc. Et donc, ça amène le sang vers la tête, ça l'amène vers les pieds, vous bougez dans un sens, dans l'autre, etc. Donc, plutôt un yoga doux. Moi, par exemple, j'aime bien faire des étirements le soir. Voilà, des étirements font partie. Alors, je les ai même dans mon lit, vous savez, les étirements pour ma périostite, la fameuse périostite. Je les ai dans le lit. Je tire un peu sur les pieds, un petit peu sur les trucs, je fais un peu de yoga, des étirements, étirements de la cage thoracique, vous voyez, des choses comme ça. Je me suis déjà même endormi avec les pieds en l'air contre le mur de la chambre après des entraînements ou des courses. Bon, ça fait partie des petits trucs comme ça. Je me réveille 10 minutes après ou 15 minutes après en me disant, mais tiens, ça fait 15 minutes que t'as les pieds en l'air. Bon, ça serait peut-être le moment de te remettre dans le bon sens et de dormir vraiment. Ça m'est déjà arrivé, c'est comme ça. Si vous avez d'autres anecdotes, n'hésitez pas à venir les raconter parce que ça fait partie des choses qui me font rigoler. Je vais rajouter aussi là-dedans la cohérence cardiaque. Fait partie aussi des choses peut-être qui pour vous sont efficaces, mais en tout cas venez me raconter tout ça parce que ça m'intéresse. Moi je vous ai donné quelques conseils et quelques éléments de ma recherche, de mon observation. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire, je vous le redis, hein, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur le site aussi, vous faites km42.run, et puis bien sûr ça peut être dans le Hamsters Running Club, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est le club où on discute de tous ces sujets là il y a une discussion sur le sommeil d'ailleurs, hein, je dois remercier ceux qui qui ont discuté un petit peu là-dessus, parce que ça m'a un petit peu aiguillé. On a eu déjà plusieurs discussions autour du sommeil, du repos, de la difficulté à aller dormir, etc. C'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir. Et donc, on discute de tous ces sujets-là. Voilà, vous venez, vous passez la porte. Je vous rappelle que ce n'est pas sur Facebook, c'est pas sur les réseaux sociaux classiques. C'est une application dans laquelle on est entre nous. Il n'y a que nous. Voilà, c'est entre nous. C'est un espace dans lequel on peut discuter de entraînement, d'alimentation, de sommeil, de nos objectifs, de nos courses. On s'encourage, on parle de chaussures, on parle de montres, on parle de tout un tas de sujets. On parle aussi de qu'est-ce qu'on va courir ou pas en 2021, voilà, tout un tas de sujets comme ça. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Hamsters Running Club. Il y a tous les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite peut-être pas une bonne nuit, parce que si vous écoutez cet épisode en pleine journée, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour aller vous coucher, mais peut-être, hein, vous allez me dire qu'écouter un podcast, c'est aussi un bon moyen pour vous endormir, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ne le faites pas pendant que vous écoutez Kilomètre 42, non, s'il vous plaît, restez éveillé, et puis si vous avez un petit peu de temps, vous allez mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, vous savez que ça me fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à tout de suite dans le Hamsters Running Club, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.